Merci à vous si vous nous rejoignez maintenant. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, 4 ans après la première manifestation sur la place de l'indépendance à Kiev, c'était le 21 novembre 2013. Quel avenir pour l'Ukraine? Quelle parole aussi pour les artistes, les écrivains dans l'histoire en train de s'écrire? Il vit à Kiev, écrit en russe, romancier de l'absurde, écrivain surréaliste, Andrei Kourkov, est l'auteur de nombreux romans, récits, tels que Le Pingouin, publié en 2000 en France, tels que Le Journal de Maïdan, sorti en 2014, et dernièrement, le concert posthume de Jimi Hendrix, tous publiés chez Liana Levy. Il sera aussi lundi soir au Théâtre de l'Odéon, dans le cadre d'un week-end à l'Est, festival qui chaque année nous raconte avec ses artistes une ville, alors cette année c'est Kiev, après Varsovie l'an passé. Une soirée sera consacrée à la liberté et au pouvoir d'expression en Europe. Ce sera donc lundi à partir de 20h avec aussi Michel Elchaninov, le philosophe, et Romain Goupil, le cinéaste, et donc vous, Andrei Kourkov, bonjour.
Bonjour.
En mai 2014, le cinéaste Oleg Sentsov est emprisonné après avoir dénoncé l'annexion de la Crimée et il est condamné à 20 ans de réclusion. Qu'est-ce qui lui était réellement reproché par la justice ?
Il était accusé des activités terroristes par le système russe. C'était... on dit une conversation avec des amis, il a dit, je crois qu'il faut détruire le monument à Lénine à Simferopol. Et comme ça, il était accusé de planifier une explosion. Il n'avait rien trouvé, il n'y a pas de preuves. Mais en tout cas, il était condamné à 20 ans et son ami Alexandre Kolchenko à 10 ans. Et il y avait deux autres amis qui étaient aussi pro-ukrainiens, pro-maïdaniens à Simferopol, qui ont fait signer le lettre de coopération avec la justice russe et donner comme preuve l'incitation de cette conversation. Je ne sais pas si c'était une vraie conversation ou c'était quelque chose d'imaginaire, mais à cause de ça, il était détenu et chaque fois, il y a une vague de protestations contre l'emprisonnement de Sentsov dans le monde. Il est déménagé par le système de justice plus et plus loin de l'Europe. Et maintenant, il se trouve dans la prison le plus lointaine, presque près du Japon, dans le nord lointain de la Russie, derrière Yakoutsk. Il n'y a plus de prisons plus au nord
plus
de la Russie.
Plus reculé. Oui. Ça veut dire que vous avez très peu de nouvelles, voire pas de nouvelles de lui?
Et il y a un peu de nouvelles parce que son avocat, parfois, peut lui approcher ou demander des informations. Et les dernières informations étaient très tristes parce que après le dernier déménagement, il a perdu 15 kilos. Il était placé dans les cellules pas chauffé, il a attrapé problème avec du corps maintenant. Il était de bonne santé au début, il est un jeune homme de 26, 27 ans.
C'est souvent les effets d'une incarcération dure. Alors il y a aujourd'hui pour Oleg Sentsov une mobilisation qui continue. Détenu là-bas, soirée de soutien ici. Vous pensez que ça peut faire bouger les choses, Andrei Kourkov?
Je crois oui. Oui, bien sûr, chaque fois il y a une manifestation comme ça, le côté russe est très, agressif, devient très agressif. Mais si on parle chaque jour d'Oleg Sentsov, de cas Oleg Sentsov, je crois un jour il va libérer parce que c'est très facile à oublier les gens dans les situations comme ça. Si on lui oublie, il reste jusqu'à leur fin dans la prison, s'il va survivre là.
Donc il s'agit de donner de la voix et de donner une voix européenne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres Oleg Sentsov en prison, André?
Je crois, officiellement, il y a plus que 45 personnes qui étaient kidnappées par les Russes et se trouvent maintenant dans les prisons. Le dernier, c'était un jeune homme de 19 ans qui a fait l'amitié ou une histoire d'amour avec une jeune fille de Sochi, des Caucases du Nord russe, et ils ont accordé dévirtualisé, rencontré à Gomyl, en Biélorussie, où il était kidnappé par FSB russe et emprisonné. C'est le fils d'un prêtre qui sert dans l'armée ukrainienne, dans le front de Donbass.
Oui. Tout ce Antoine, que vous nous racontez là, finalement, ça peut rappeler à certains le temps de l'Union soviétique. Vous-même, vous êtes un spécialiste de la satire sociale post-soviétique. Alors, est-ce qu'on est encore dans le poste? Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose à voir avec l'ancien régime communiste?
Il y a beaucoup de choses communes. En fait, c'est drôle, mais l'apportement politique en Russie me ressemble plutôt à la situation soviétique. Il y a plus en plus de gens qui étaient avant nostalgiques de la vie soviétique, et maintenant ils se sentent comme dans la vie soviétique.
Ils sont plus nostalgiques.
Si vous trouvez sur YouTube la fête l'anniversaire de la révolution d'octobre à Sivastopol et Simferopol en Crimée, c'est beaucoup plus grotesque et plus grand que dans le temps soviétique.
Andrei Kourkov, une figure de la contestation derrière les murs pour ses prises de position, celle de Oleg Sentsov dont on parle, les artistes en Ukraine aussi n'ont pas fini de se battre pour préserver la liberté d'expression, parfois au prix de leur propre liberté en Ukraine et autour.
Oui, en fait, il n'y a pas des censures officielles en Ukraine, mais il y a beaucoup de groupes différents. Il y a des radicaux qui sont très, par exemple, très conservatifs à propos des questions religieuses. Et il y avait quelques cas quand les peintres essayaient d'avoir des expositions avec des tableaux un peu en question, on peut dire que provoquants. Et bien sûr, il y avait des problèmes, mais c'est toujours des problèmes pas avec le système, avec l'État, c'est le problème avec des groupes. En fait, les gens des arts, des beaux-arts, les gens créatifs en Ukraine sont devenus depuis 2013-14 très politisés. Avant, c'était comme un goût mauvais être politisé, penser des politiques, parler des politiques, faire quelque chose à propos autour des politiques.
Maintenant, d'ailleurs, vous êtes le premier à toujours répéter de roman en roman, je ne vais pas faire un roman politique. Hein.
Oui, j'étais surpris.
Ça vous rattrape toujours.
Oui, c'est ça.
Pardon, finissez. Vous disiez que depuis 2014, il y a quelque chose quand même qui a basculé, que la politique est entrée aussi dans la fiction et dans la littérature.
Oui, et en fait, la société civile en Ukraine, et les gens créatifs sont une partie importante de cette société, est devenue très forte, trop forte parfois pour le Parlement, pour les politiciens ukrainiens. C'est-à-dire que les politiciens ont peur des gens, jeunes gens des rues qui sont les artistes, des journalistes, des cinéastes. Et comme ça, ces gens sont plus souvent maintenant invités par les politiciens de s'engager officiellement dans les choses d'État.
Pourquoi ils ont peur?
Parce que il y a trop d'informations négatives toujours sur la politique ukrainienne. En Ukraine, parce que les gens normaux, ordinaires, n'ont pas la confiance dans les politiciens, et les gens de culture, au contraire, sont plus en plus populaires. Et comme ça, pour les politiciens, c'est très important d'être vu avec des gens qui sont des réputations bonnes. Et pour montrer qu'on travaille ensemble, pour soutenir les actions des gens comme Sergueï Jadan, qui est maintenant à Paris, un activiste, poète, mais aussi qui a organisé une fondation pour aider les réfugiés à l'intérieur d'Ukraine, les gens qui habitent dans la zone de la guerre, parce que le pays est, pas officiellement, mais en fait, à la guerre, déjà 3 ans à la guerre.
André Kourkov, en 2014, vous écriviez votre journal de Maïdan et vous le racontiez. Vous habitiez à 500 mètres de cette place. Vous pouviez presque de votre balcon voir le déroulement des événements. Vous écrivez ce journal à vif, à chaud. Vous prenez des notes et c'est vraiment une description au quotidien de ce qui s'est passé là, ce temps fort, ce moment, ce basculement aussi dans la vie de l'Ukraine. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, comment vous regardez avec du recul ces événements? Est-ce que votre lecture des choses a changé?
Le pays a changé, moi aussi. J'ai essayé de relire mon journal il y a quelques jours, quelques pages, et c'était un peu choquant pour moi parce que chaque jour, en 2013-2014, j'ai essayé de prévoir qu'est-ce qui va passer le jour prochain. Et c'était toujours
faux.
C'était toujours faux. Et quand j'ai relu quelques pages maintenant, je pensais que c'était comme il y a 100 ans. C'était pas écrit par moi. Oui, c'est comme j'ai regardé le film, la chronique.
Et vous avez compris pourquoi c'était faux? Vous avez compris qu'est-ce qui vous empêchait de voir les choses?
Parce qu'il n'y avait pas de logique dans les événements. Il y avait beaucoup de choses chaotiques. C'était pas organisé, en fait. C'était pas organisé par les Américains, comme on dit en Russie. C'était pas organisé du tout. C'était une émotion transformée dans les protestations des gens ordinaires avec des idées différentes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le pays, pour améliorer la situation?
On peut écouter, si vous le voulez bien, un extrait d'un documentaire sobrement intitulé Maïdan de Sergueï Lonitsa qui était sorti en mai 2014 pour vous replonger dans les événements.
Ми розпочинаємо наше віче з державного гімну України. Коли російський президент заявляє про те, що наш Майдан, пряма цитата Путіна, «Это погроми какие-то», це хамство, це зневага.
On y entend chanter dans cet extrait du documentaire Maïdan l'hymne ukrainien par les habitants massés sur la place de l'indépendance. L'Ukraine n'est pas encore morte, ni sa gloire, ni sa liberté. Et aujourd'hui, André Kourkov, est-ce que la liberté de l'Ukraine et surtout des Ukrainiens est intacte?
La liberté est là. Et c'est peut-être la garantie de l'avenir d'Ukraine parce que les Ukrainiens sont un peu anarchistes. Le matrix historique d'Ukraine comme l'État, c'est le territoire des Cosaques. C'est un territoire sans frontières fixées, mais avec la démocratie, avec des élections des hétmans, des chefs de l'armée des Kazakhs. Et chacun pense qu'il peut influencer les décisions politiques d'État. Et comme ça, comme résultat, on a 340 partis politiques enregistrés dans le ministère de la Justice. Il y aura toujours plus d'opposition que de pouvoir. Il y aura toujours beaucoup de gens avec des pensées, des idées différentes. Et à cause de ça, peut-être la société est trop dynamique, mais dans le même moment, est tolérante parce qu'il y a trop de choses, trop de pensées, trop de concepts.
Ça déborde.
Oui.
Ça déborde et du coup, rien ne se passe ou quand même les choses finissent par avancer, vous avez le sentiment?
Non. Bien sûr que je crois que l'Europe n'est pas très contente avec la vitesse des réformes en Ukraine. C'est toujours très difficile de changer les choses dans un pays avec 40 millions d'habitants. Mais ça bouge. Il y a des réformes dans l'éducation maintenant. En fait, Madame Poroshenko, qui est la femme du président, s'engage dans l'introduction d'éducation inclusive en Ukraine maintenant. Uh-huh. Il y a beaucoup de choses.
L'écriture, vous voulez dire L'écriture inclusive ou l'éducation?
Non, non, éducation. Ah
bon. Ça veut dire quoi
C'est pour inclure les enfants handicapés dans les écoles normales. Oui. Et il y a beaucoup de réformes dans le système des santé. Il y a beaucoup d'opposition contre les réformes et c'est intéressant parce que c'est les docteurs, c'est les médecins qui sont contre les réformes. Mmh. Et il y avait déjà une réforme des polices qui marchait bien, mais il faut encore, je crois, contrôler la situation. Et maintenant, il y a la réforme des systèmes légaux qui est très, très importante parce que le système légal était presque 90% corrompu il y a 5 ans.
Vous m'avez dit dans le journal que ça allait durer 20 ans avant que l'Ukraine puisse espérer rentrer dans l'Europe. Vous êtes quand même un peu pessimiste parce que...
Non, je suis optimiste parce que si j'étais un pessimiste...
Ça n'arriverait jamais.
Dans 30, dans 40 ans.
Optimisme gris, hein, vous disait André Kourkov, oui. Antoine, dans le journal. Quelles sont aujourd'hui les fractures ukrainiennes pour vous, André Kourkov? Parce qu'on imagine toujours le pays scindé en deux. Est-ce qu'il y a des nouvelles fractures qui sont apparues depuis 4 ans?
Les fractures étaient créées par les politiciens parce que chez nous, après 1991, le mot idéologie était presque tabou pour les politiciens. Les politiciens cherchaient la différence entre groupes différents des voteurs et manipulaient ces groupes. Comme ça, il y avait fracture linguistique entre les russophones et ukrainophones. Et cette fracture est toujours utilisée, toujours populaire chez politiciens. Mais en fait, c'est pas la question des langues. La fracture principale, c'est la fracture entre les gens des mentalités soviétiques et russes et les gens mentalités européennes, individualistes, pas collectifs, égoïstes, mais beaucoup plus actifs. Et en fait, il y a 15 ans, cette frontière entre deux mentalités partageait le pays en deux. Il y a 5 ans, c'était déjà une territoire peut-être des 3-4 régions près de frontière avec la Russie, c'est-à-dire que la frontière s'est bougée lentement vers la Russie et si il n'y avait pas des Maïdans, des occupations de Crimée et de la guerre là, dans 10 ans, dans 12 ans, la frontière entre deux mentalités pouvait coïncider, être placée sur la frontière entre la Russie et l'Ukraine.
Cette question des frontières est évidemment très importante. Oui. Est-ce qu'on peut quand même comprendre que sur le cas de la Crimée, par exemple, il y a une revendication russe? Est-ce que vous pouvez le comprendre, ça? Parce que, si vous voulez, la frontière, elle n'est pas non plus forcément une frontière fixée d'une manière définitive.
Oui, c'est pas la frontière officielle. Cette frontière administrative, on dit administrative maintenant, va rester peut-être pour longtemps, pour 10 ans, pour 20 ans. Mais c'est impossible, par exemple, pour vous, avec le passeport français, traverser cette frontière parce que c'est pas une frontière de l'État. C'est seulement pour les gens avec le passeport ukrainien. Et là, en Crimée, bien sûr, il y a des problèmes plutôt chez Tatars de Crime. Parce que c'est presque 300 000 Tatars de Crime qui étaient déportés par Staline en 1943 et étaient revenus au début des années 90. Ils ne veulent pas être les citoyens de la Russie encore. Et comme ça, les gens les plus actifs de cette communauté sont physiquement expulsés, physiquement ou avec la justice russe, expulsés ou emprisonnés.
Qu'est-ce qui fait que cette frontière intérieure dont vous nous parlez recule comme ça vers l'Est progressivement? Ce sont les gens qui, finalement, préfèrent passer du côté plutôt individualiste, occidental, européen, plutôt que de rester dans le système collectif ex-soviétique?
Je crois,
qu'est-ce qui se passe? Une transformation?
La vérité est que les gens des 30 ans, 35 ans et plus âgés, les Russes ethniques, des Ukrainiens ethniques en Crimée, ils sont plutôt les représentants des mentalités collectives. Mmh. Mais ils essayent aussi de faire quelque chose. S'ils veulent, par exemple, voyager à l'étranger, Parce que c'est impossible pour les gens de Crimée de recevoir les visas dans les passeports russes, les visas européens. Comme ça, ils essayent d'organiser ces passeports ukrainiens. Et les Ukrainiens peuvent maintenant voyager dans la zone Schengen sans visa.
Donc c'est une question de génération, finalement, oui. De renouvellement de génération qui finit par repousser cette
ancienne. Oui, c'est
vrai. Et effacer l'ancienne...
C'est vrai parce que la jeunesse d'aujourd'hui en Ukraine et en Crimée, ils ne savent rien de la vie soviétique. Ils ne savent rien des problèmes avec censure, avec KGB et tout ça. Mais ils reçoivent plus en plus d'informations sur la vie occidentale. Et la vie occidentale commence pour la Crimée déjà en Ukraine, déjà à Kiev, malgré la guerre, parce que la guerre se trouve à 800 kilomètres de Kiev. Si on veut ignorer la guerre, on peut facilement faire ça.
Toute la jeunesse, ou est-ce que vous faites une séparation entre peut-être la jeunesse des villes et la jeunesse des campagnes, la jeunesse plus rurale? Est-ce que vous avez simplement le sentiment que cette fracture, elle est surtout générationnelle, mentale, comme vous l'évoquiez, hein, entre les pro-soviétiques et les pro-européens, ou est-ce qu'il y a aussi un clivage social?
Il y avait beaucoup de différences dans le temps soviétique entre la jeunesse de la ville et la jeunesse des campagnes. Maintenant, il y en a moins, mais il faut dire que la jeunesse des villes est un peu plus pratique, plus cynique parfois, et parfois aussi moins patriotique, plus cosmopolite, parce qu'il ne comprend pas, par exemple, la différence entre cosmopolitisme comme l'esprit quand on accepte le monde comme un espace pour tous et le désir d'échapper les problèmes, de se cacher de la guerre à l'étranger, tout ça. Et la jeunesse des campagnes, c'était les volontaires premiers qui sont partis pour Donbass pour défendre l'Ukraine au début des événements 2014.
13h18 sur France Culture, c'est la deuxième et dernière partie de la Grande Table, dernière Grande Table aussi de la semaine, avec l'écrivain, romancier ukrainien, le père du pingouin et l'auteur du journal de Maïdan, Andrei Kourkov, qui est notre invité aujourd'hui.
France Culture, la Grande Table, Olivia Jesbert.
Et vous, Andrei Kourkov, quel Ukrainien êtes-vous? Dans quelle Ukraine votre cœur balance-t-il? Vers quoi vous dirigez-vous, tendez-vous? Vous évoquiez notamment la question de la langue. On sait que vous êtes un des écrivains ukrainiens qui écrivent en russe. Cette langue d'un pays qui nous fait la guerre, dit votre confrère Alexei Nikitin, l'auteur de Victory Park dans l'Obs cette semaine. Cette langue, selon lui, ne doit pas être censurée, mais il faut quand même soutenir massivement la langue ukrainienne. Qu'en dites-vous?
Oui, je suis un Ukrainien politique, pas ethnique. Et c'est une chose importante pour l'Ukraine, la question d'ethnicité. J'espère que ça va finir dans 20 ans encore, je vais répéter, parce que si on demande à un Ukrainien s'il est un Ukrainien, il pense, oui, si je suis un juif, ou je suis un Arménien, je suis citoyen d'Ukraine, mais je ne suis pas un Ukrainien. Moi, je dis que je suis un Ukrainien politique. Je parle ukrainien parce que c'est très important pour l'Ukraine et aujourd'hui spécialement parce que vraiment, spécialement dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de discussions si le russe est la langue d'ennemi ou c'est la langue... Des habitants d'Ukraine, parce que presque 50% des Ukrainiens sont russophones. Et bien sûr, les russophones plus âgés, ils ne parlent pas ukrainien, ils comprennent, mais ils ne veulent pas apprendre. Peut-être que c'est difficile pour les gens plus âgés, mais j'espère que dans l'année prochaine, la majorité des gens russophones devront bilingues. Je suis bilingue maintenant aussi, mais je sais qu'à Kiev, il y a des étudiants, la majorité des étudiants sont bilingues. Et bien sûr, l'éducation est faite seulement en ukrainien.
Et parler en deux langues, c'est s'assurer de parler à toute l'Ukraine aujourd'hui encore, Andrei Kourkov?
Il y a des régions russophones toujours. Il reste. C'est pas seulement le Donbass, c'est aussi Odessa, c'est Zaporogie, c'est le sud et l'est du pays. Mais il faut accepter, ça je dis pour les nationalistes ukrainiens, il faut accepter que l'existence de la langue russe en Ukraine, c'est une chose culturelle et naturelle.
Antoine Mercier. Oui,
c'est là où on voit que vous êtes finalement un représentant de cette dualité complètement, parce que vous êtes russe quand même, vous êtes né à Leningrad. Vous êtes descendant, vous avez écrit ça à Poutine, hein, donc je vous lis, descendant de Cosaques du Don et de prêtres orthodoxes du nord de la Russie. Vous avez été élevé dans la culture russe, vous pensez, vous parlez, vous écrivez en russe. Pourquoi est-ce que vous prenez tout d'un coup le parti de l'Ukraine?
Oui, parce que...
Certes, vous y avez été élevé à 50 ans.
Parce que je crois, j'appartiens à la mentalité individualiste européenne, ukrainienne, peut-être aussi un peu anarchiste, parce que je veux rester libre, je ne veux pas être dit qu'est-ce qu'il faut écrire et qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne veux pas être membre d'un collectif ou d'un groupe dirigé ou manipulé par les pouvoirs différents politiques et tout ça. Et je crois que je suis un Ukrainien typique, mais pas ethnique.
Est-ce que ça va pouvoir avancer jusqu'en Russie, peut-être un jour, cette révolution dont vous parlez, qui se déroule actuellement en Ukraine? Est-ce qu'en gros, est-ce que cette frontière va peut-être aller jusqu'à Moscou?
Je crois que les gens en Kremlin ont peur. Et c'était la raison pour la réaction si agressive au Maïdan en Ukraine et approchement d'Ukraine à l'Europe. Parce que la Russie, c'est un très grand, trop grand pays avec une centaine de nationalités, beaucoup de groupes différents. Il y a aussi des Yakouts nationalistes, par exemple, des petits mouvements séparatistes en Tatarie. En tout va, dans les républiques du Caucase. Et bien sûr, les politiciens russes, les gens autour de Poutine et lui-même, ils ont peur que cette mentalité individualiste, si elle arrive en Russie, va détruire l'Empire, détruire l'État.
Une deuxième chute du communisme, finalement.
Oui.
Vous évoquez, Andrei Kourkov, la manière dont la politique n'a cessé de vous rattraper comme citoyen, mais aussi comme écrivain. Pourquoi faut-il s'engager aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'engager pour dénoncer ce qui continue à ne pas aller, 4 ans après les premières manifestations Place Maïdan? Ou est-ce qu'il faut aujourd'hui maintenant s'engager pour reconstruire ou construire une nouvelle société, une nouvelle Ukraine?
Bien sûr, il faut s'engager pour la reconstruction de la société, du pays. Il faut s'engager politiquement pour contrôler les politiciens, contrôler le gouvernement. Et c'est la chose très importante faite par la société civile. Parfois, il y a des activistes des sociétés civiles qui sont plus que les anarchistes, ils sont trop radicaux, qui essaient d'attaquer les politiciens et ils n'acceptent pas. Mais en tout cas, je crois, maintenant, les gens du gouvernement comprennent qu'ils sont contrôlés par la société. Et si la société n'est pas contente, ça peut devenir dangereux pour les politiciennes ukrainiennes. C'est pas une chose bonne, mais il faut...
Donc ils acceptent d'être contrôlés pour ne pas être renversés.
Oui.
C'est ce que vous dites.
C'est ça. C'est ça.
Et pour vous, le contrôle passe par quoi? Par la fiction, par la littérature, par les livres? Parce que vous avez aussi une activité d'éditorialiste. Ça passe aussi par la presse.
Oui, par le discours public. Par... engagement des journalistes, des activistes, des gens ordinaires dans les discours, dans les discussions sur les issues importantes pour l'avenir du pays. Parce que chez nous, cette tradition des discours publics n'est pas bien encore installée. C'est-à-dire qu'il y a des décisions prises par le gouvernement qui n'étaient pas discutées par les gens actifs, par les représentants actifs des sociétés civiles.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, ce combat-là est bien perçu ou un petit peu lointain quand même? On a l'impression que tout cela est un peu loin de l'Europe, alors que c'est au cœur, évidemment.
Peut-être oui.
Trop loin.
Oui.
J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des artistes qui font bouger les lignes aujourd'hui sur la scène artistique ukrainienne, et notamment parmi la jeune génération. On en retrouvera quelques-uns tout au long du week-end, dans le cadre de ce week-end organisé ici à Paris, ce festival Un week-end à l'Est, Kiev, puisque c'est la ville retenue cette année par le festival. Il y a des artistes de cabaret, il y a des artistes de théâtre, tout simplement. Et puis, ça passe aussi par une nouvelle scène dans l'art contemporain. Il n'y a pas que la littérature, pas que les écrivains qui s'engagent.
Il y a du cinéma, il y a des musiques contemporaines. Valentin Silvestrov, c'est un compositeur très, très connu, le numéro un en Ukraine, va jouer ses pièces de musique dans la cathédrale de Saint-Vladimir à Saint-Germain. Il y a aussi des films documentaires. Il y a des discussions. Et bien sûr, l'événement le plus important, c'est au théâtre d'Odéon, lundi à 20h. C'est la discussion à propos du pouvoir d'expression et les limites des libertés de presse et d'expression.
Et puisque vous êtes un homme de mots, vous aurez remarqué que le titre de cette conférence à laquelle vous participerez, André Kourkov, n'est pas effectivement un questionnement de la liberté d'expression, mais du pouvoir d'expression.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que la liberté des presses peut être garantie aussi pour une période courte par un dictateur pour montrer que tout marche bien. Mais le pouvoir, c'est une situation quand les journalistes deviennent les parlementaires. Et chez nous, des journalistes les plus actifs, les plus militants, maintenant sont les politiciens qui commençaient sa carrière politique grâce à, pas seulement liberté de la presse, mais grâce à pouvoir d'expression.
Ça vous paraît une bonne chose?
Oui.
Pour l'Ukraine, aujourd'hui, oui. C'est les politiques qui deviennent en France,
oui.
qui deviennent journalistes.
Chez nous, c'est très bien.
L'esprit de révolte qui souffle aujourd'hui sur la scène artistique ukrainienne, on peut donc le retrouver tout au long du week-end jusqu'à lundi ici à Paris dans le cadre de ce festival auquel vous participez, Un week-end à l'Est, Kiev. Toutes les informations, les rendez-vous sont bien sûr à retrouver sur leur site internet. Vous serez à 20h entouré notamment du philosophe Michel Elchaninov d'autres. Il y aura Romain Goupil hein, aussi qui sera là pour cette soirée. Le pouvoir d'expression en Europe, quelles limites? 20h au Théâtre de l'Odéon. Un grand merci à vous. Et puisqu'on est là à se donner des rendez-vous, je vous rappelle que demain, samedi, il y aura aussi des masterclass en série. Ce sera ici, à la Maison de la Radio, au studio 105. 14h, l'acteur et metteur en scène Michel Faux rencontrera donc Arnaud Laporte. À 15h30, Anne et Patrick Poirier. À 17h, ce sera la danseuse Marie-Agnès Gillot pour une masterclass animée par Aurélie Charron. Et puis 18h30, 19h30, on fermera cette journée avec Étienne Klein, le physicien que vous connaissez bien, interrogé par Nicolas Martin. Entrée libre sur inscription obligatoire sur le site de la Maison de la Radio. Un très beau week-end à tous, une très belle après-midi et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Claire Maillot et Chloé Leblon, Clémence Marie, Henri Leblanc, Bertie Bourdon et Maxime Morin qui ont programmé pour les uns et préparé cette émission pour les autres. À la réalisation aujourd'hui, Perret Legras avec Bruno Gagnère. À lundi, Antoine, merci à vous.
À lundi.
Merci André Courcor.
Merci à vous.